Au fil du temps, VMware a su se construire un écosystème entier autour de son produit phare, vSphere. J'ai déjà eu l'occasion ici de parler de Tanzu, bien évidemment, et aussi d'Entrea. Et aujourd'hui, pour nous aligner avec une des top tendances de 2022, nous allons parler de sécurité, notamment au travers de deux produits, NSXT et Carbon Black. Pour parler de ces sujets tout aussi complexes que passionnants, j'ai le plaisir de recevoir Tuan Nguyen, chef de produits techniques et expert sécurité réseau chez VMware, et Stéphane List, expert VMware en sécurité des endpoints, workloads et containers. Stéphane, bonjour, bienvenue.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Aujourd'hui, on a deux sujets qui sont très liés, mais puisque c'est autour de la sécurité des containers dans VMware. Donc, on a NSX d'un côté, on a Carbon Black de l'autre. On commence par NSX. Peut-être une petite mise à jour par rapport aux derniers épisodes que j'ai pu avoir autour de ça. Où en est le produit aujourd'hui? Quelles sont les nouveautés?
Oui, c'est moi. Je fais partie de l'équipe marketing technologies Tuan. On vient de lancer NSXT version 3.2. Il y a beaucoup de nouveautés. C'est une solution de bout en bout qui tourne sur un data center, qui tourne sur vSphere, et tourne sur d'autres bare metal et support container. Et support sur le public cloud, Azure, AWS, et aussi supporter toutes les fonctionnalités sur les Edge. C'est beaucoup de nouveautés, c'est juste annoncé sur le côté NSX la semaine dernière, trois semaines, juste avant Nouvel An.
et ces nouveautés, alors, ça consiste en quoi?
C'est en plusieurs axes, je peux dire trois axes, c'est plus. Paquet. D'abord, c'est le réseau. On a beaucoup de trucs avancés sur le réseau. On maintient la version 3.0, 3.1. Sur 3.2, c'est beaucoup d'avancées. Sur le côté BGP, on a avancé. OSPF, tous les trucs que vous avez déjà vus. Et on focus beaucoup sur la simplification des utilisateurs. Now, dans le vCenter, il y a déjà le plugin de NSX. Tu peux déployer directement NSXT de à partir de vCenter. C'est tout un truc très nouveau et très facile. Et ça t'a amené de déployer non seulement NSX, et aussi déployer tous les workloads de sécurité ou de réseau. So, c'est tout en un clic, tu dois commencer à déployer facilement. Et le troisième et le plus important est toutes les nouveautés de sécurité. So, ce truc que tu as déjà entendu parler, des NDR, Network Detection Response, ou des collecteurs avec des EDR, with the Endpoint Detection Response, et collaborer avec Carbon Black, l'équipe, qui est Stéphane, qui est là. Et il y a d'autres, beaucoup de choses, plus de 122 features qui viennent de sortir dans la nouvelle version de 3.2.
OK. Et. Alors, NSX, ceux qui ont suivi un peu les précédents podcasts sur VMware, ils savent ce que c'est. Mais si tu veux juste donner l'image générale de ce qu'est NSX, et donc, après, je reviendrai là-dessus, mais une des nouveautés, par exemple, c'était qu'aujourd'hui, NSXT est utilisable aussi bien côté VM que container, alors que jusqu'à maintenant, c'était distinct, il me semble.
Oui, et pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui ont déjà déployé NSXV, ceux qui ne connaissent pas tous NSX famille. Il y a deux versions NSXV et c'est l'ancienne version de NSX. On va appeler V, c'est le vCenter. So, NSX qui est lié avec vCenter, qui fait partie de vCenter. Maintenant, NSXT qui est complètement déployé en dehors de vCenter, on dit comme ça, mais c'est toujours lié avec vCenter. Et ça fait partie de trucs qu'on voulait lancer. Et qui apporte beaucoup plus de features, beaucoup plus de fonctionnalités. Côté fédération, qui peut faire des multisites, et côté entrée, côté container, on supporte tout ce qu'un NSX avec ne pouvait pas le faire. Et aussi, on fait beaucoup d'analytics NSX intelligence, on fait de last line acquisition, et on fait des NTA, with network threat analysis, et NDR, network detection and response. Tout ce genre de trucs, tu ne peux pas faire avec NSX avec. Ça, cela dit, il faut faire la migration. Ça, c'est un process de migration NSXV vers NSXT. C'est un gros projet. C'est la fin de support bientôt cette année. NSXV, c'est la fin de vie. Toutes les nouveautés, non, on porte sur NSXT. Ce qui vient d'annoncer juste avant Christmas et le Nouvel An.
Donc, si aujourd'hui j'ai un data center VMware, tout va tourner sur NSXT.
Correct. So, il y a beaucoup de gens qui ont encore en NSXV. So, on fait le process. C'est dans la nouvelle version de 3.2 qui vient de sortir. On améliore beaucoup d'outils qui s'appellent Migration Coordinator qui permettent à tous les gens qui peuvent migrer dans NSXV vers NSXT et amener tous les workloads, tous les sécurités de réseau, de routage, tout ça qui tourne sur NSXV. Lié avec vCenter. Now, on va amener tout ça avec la migration coordinateur, l'outil qui fait partie de NSXT pour amener tout le monde vers NSXT et en profiter de toutes les nouveautés et nouvelles features que vient de lancer.
Alors, pour moi qui ne suis pas un expert du réseau, tu m'as parlé de BGP, de SPF. Quelles sont les grosses différences entre NSXV et NSXT?
So, c'est NSXV qui ne pouvait pas faire de BGP, que je fais que OSPF. Okay? NSXT, on fait les deux. On fait OSPF et BGP. C'est non seulement ça, ce qu'on a fait pour le routage, c'est le routage sur le overlay vers le north, comment dire, c'est north-south, right? North. C'est le north-south traffic vers l'Internet, sur le nord-sud. Sur le nord-sud, on demandait le routage vers le core de réseau core, qui est Cisco, qui est Juniper, qui est quel que soit opérateur. En NSXT, qui a la couche physique qui peut lier entre le overlay NSXT avec le réseau d'opérateurs qui fait de BGP. C'est tout ça qui amène sur le trafic north-south qui va avec l'Internet. Là, c'est une part. D'autres parts, c'est le trafic. La plupart, 80% de trafic, c'est east-west. Right? C'est l'east-west entre les hypervisors. Ça, c'est fait partie des NSXT qui est embêté sur tous les hypervisors, tous les hosts qui tournait sur vSphere. C'est ça, si tu peux faire tu fais pas route dynamique entre East-West, mais tu fais route dynamique OSPF, BGP, vers le North-South, vers l'Internet.
D'accord. Redis-moi quand même, qu'est-ce que tu appelles du routage dynamique et à quoi servent ces protocoles? Parce que, encore une fois, c'est pas ma spécialité. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a de l'auto-discovery, on crée une VM, elle est accessible par une autre assez facilement.
Oui, c'est le routeur dynamique, ça fait partie de gateway qui fait sortir le trafic vers l'Internet, c'est qui fait partie du réseau core de l'opérateur. So, on s'appelle le T0. T0, c'est notre NSX Edge, qui fait partie de NSX V aussi. C'est qui porté sur NSX T, qui a amené beaucoup plus de capacité. Si on peut prendre que 8 NSX T0, qui fait partie de chacun qu'on supporte 40 gigas de trafic, que fois 8, c'est 8 fois 40, c'est 320 gigabits par seconde, qui fait partie de faire très gros réseau. C'est un des plus gros réseaux qu'on pourrait faire sur l'opérateur, qui fait partie pas mal d'opérateurs en Europe, so Vodafone, Orange et d'autres, Deutsche Telekom. Ils sont utilisés sur le réseau de core. C'est NSXT qui fait partie de ça. c'est faire la partie nord-sud. C'est faire partie de east-west entre les hypervisors. On peut amener maximum capacité de light rate et quel que soit de carte réseau que vous avez, 10 gigas ou 20 gigas. So we can tourner au-delà de 20 terabits per second ensemble de tout l'ensemble de trafic de tous les hypervisors, qui est le maximum bouche aujourd'hui. Le vCenter now supporte maximum 1024 hosts. 1024 hosts multiplied by 10 gigas par host. Tu arrives à 20 terabits. c'est énorme. C'est un des plus gros réseaux déployés. C'est beaucoup de European customers utilisés pour le moment.
D'accord. J'ai une question, du coup, parce que on peut tourner VMware, vCenter aussi bien on-prem que dans le cloud, il me semble.
Oui, c'est intéressant, oui.
Et donc, on peut utiliser pour les deux NSX, j'imagine, NSXT maintenant.
Tu parlais de quoi? De cloud, de talk AWS
N'importe lequel, enfin, s'il y a des grosses Azure. Différences, évidemment, mais aujourd'hui, je veux avoir un workload hybride, donc je veux avoir des hosts qui sont on-premise et je veux avoir des hosts qui sont chez un cloud provider. Et aujourd'hui, on peut faire tourner un workload hybride avec VMware.
Correct.
Au niveau du réseau, alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est toujours NSXT qui va faire l'interface entre les deux, ou est-ce qu'on utilise le réseau du cloud provider?
Il y a deux réponses pour celle-là. Soit tu déploies toutes les couches, on s'appelle SDDC, Software Defined Data Center. C'est dedans, tu as la couche de compute qui est vSphere, et couche storage qui est vSAN, et la couche réseau qui est NSX, dans ce cas-là NSXT. So, tout ce genre de couches, c'est la couche SDDC. So, toute la couche, l'ensemble de couches compute, storage et réseau, tout ça, tu peux amener sur AWS, on s'appelle VMware on AWS, so VMC. Là, ça permet de connecter entre les deux. So, dedans, il y a deux choses. Eh? Soit tu déployes ça dans toutes les couches compute, réseau et storage, il faut faire la connexion. Soit on travaille avec AWS ou Azure ou d'autres public cloud. Et moi, là, c'est Azure et AWS qui permettrait de connecter sur le Transit Gateway. So, Transit Gateway, c'est quoi ça? Ça, c'est permettrait de faire hub and spoke. So, tous les trucs qui parlaient sur le hub. Et le hub, c'est le Transit Gateway. So, maintenant, on intégrate complètement avec ça. C'est notre partenaire stratégique avec AWS et Azure qui permettra de l'amener tout ça. C'est une chose. Deuxième, il faut que tu ramènes ton workload, ton application qui tourne on-prem, qui va vers le cloud, qui est AWS ou Azure. On a un produit qui s'appelle SCX, c'est le SCX, c'est un produit qui permettra de ramener le workload, quel que soit du tourne on-prem vers le cloud ou de cloud vers on-prem. Ça, on a tout ça. So, on a une unique position qui fait tout, de bout en bout, de niveau 2 jusqu'à niveau 7.
OK.
That's in show, right? And there's a deuxième solution qu'on refaire is NSX Cloud. So the NSX, il y a beaucoup de customers déjà déployé NSX en data center. Il ne voudrait pas déployer toute la couche compute et storage, tout ça sur le cloud. Il dit juste pour savoir renforcer la politique de réseau et politique de routage dans le cloud. Là, on peut déployer que le Edge, qui est le NSX Tier 0 on-prem. Il juste déployer un truc s'appelle Lightweight et une seule VM qui tourne sur le cloud, qui s'appelle NSX Edge. Là, il permettra de faire un footprint sur le cloud. C'est de tourner ton NSX on-prem et de te connecter sur le cloud et faire permettre de renforcer le policy réseau et policy de routage autour sur le public cloud. Ça, c'est plus simple, mais que faire de réseau. L'autre solution VMC, tu peux faire tout, compute, storage and réseau. So, on a les deux solutions.
Ok, ok, c'est très clair. Donc tout à l'heure, tu as mentionné aussi des fonctionnalités de sécurité. Tu as employé quelques noms très barbares pour moi qui sont NDR, EDR. Quelle est la différence entre donc, du Network Detection Response, si j'ai bien compris, et du Endpoint Detection Response?
Stéphane?
Très simplement. Alors, donc ouais, donc le endpoint détection de réponse, c'est donc de la recherche d'indicateurs de compromission sur des endpoints, c'est-à-dire rechercher quel process a tourné sur une machine, quels sont les appels qui ont été faits par ce process, les connexions réseau, si c'est du endpoint Windows, quelles sont les modifications de clés de registre, etc. Donc, c'est vraiment tout un ensemble d'éléments de compromission qui sont détectés avec un EDR. Donc, ça va générer des alertes et ça va permettre de faire ensuite des investigations du threat hunting. Donc, ça, c'est pour le endpoint. Et pour le network detection de response, c'est plutôt ce qui va être collecter tout ce qui se passe sur le réseau et détecter de la même façon, détecter des malwares, des ransomware, mais là, en examinant les trames réseau. Donc, d'accord. Carbon Black, qui est l'EDR, n'examine pas les trames réseau, mais examine plutôt ce que fait l'OS, quels sont les process qui tournent, et ce que font les OS sur les OS Windows, Mac ou Linux, et également sur les containers.
D'accord, donc si je comprends bien, il y en a un qui s'occupe plus d'étudier les syscalls système, l'autre qui va être plus sur leur réseau.
Plutôt, Ouais, c'est pas un IDS, IPS, hein, c'est quand même différent. C'est vraiment décoder complètement les trames, les reconstruire pour détecter ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi.
L'idée, c'est pas que ça, parce qu'il y a d'autres vendeurs qui peuvent faire la même chose, mais on fait complètement différent. On ne fait pas que l'analyser de silo, right, le silo de chaque produit. On intègre tous les deux. So, l'EDR, c'est de Carbon Black, peut détecter levelement, c'est quelque sorte d'analysis qui va envoyer vers NS6. NS6, dans ce cas-là, c'est NDR. So, NDR, c'est Network Detection Response. On a trois piliers, trois produits, right? D'abord, c'est des EDS et EPS, intrusion prevention. Second, on a les sandboxing, which is called sandboxing, c'est de faire the network threat analysis. So, on analyse tous les produits, tous les trames de réseau qui arrivent chez nous et on voit avec le sandboxing qui tourne sur le cloud. Permettra d'analyser et retourner vers très vite et block ou protect ton réseau ou quelque soit malicieux qui tourne sur le réseau. Qui ne sont pas seulement que analyser les trames comme les IDS et les IPS, c'est notre IDS et IPS qui fait beaucoup plus que d'autres vendeurs sur le marché. On a complètement une solution complètement distribuée vers tous les hosts, tous les vSphere. Vcenter tourner. On peut détecter dans le hypervisor et d'autres vendeurs ne pouvaient pas le faire parce qu'on est le owner de vSphere. Donc, on pouvait faire ça. Et tous les deux, EDS, EPS, Detection Response, est combiné avec sandboxing et le NTA, Network Threat Analysis. Et ensemble de tout ça, on fait du machine learning qui tourne, qui est combiné avec Carbon Black, on fait des NDR, fait très avancé technique. C'est ce qui a annoncé le mois dernier. Et beaucoup de clients qui ont entendu de cette feature-là, ça fait longtemps et on l'a déjà eu là maintenant.
Ok, alors, bon, il y a pas mal de choses. Déjà Carbon Black, alors c'est quoi, un produit ou un ensemble de produits?
Alors, Carbon Black, c'était un produit avant, c'est quelque chose qui a été intégré, qui a été racheté par VMware, donc c'était une société, hein, Carbon Black, qui a été racheté par VMware, et maintenant le produit donc s'appelle VMware Carbon Black Cloud, et donc c'est une solution complète, une solution SaaS complète, qui permet de protéger à la fois les endpoints, les workloads, donc toutes les machines VM, vSphere, mais également les containers. Sur la partie workload, la particularité de Carbon Black Workload, c'est justement qu'on a une interface dans vSphere. Et donc, directement dans vSphere, on voit toutes ces machines virtuelles. En un clic, on va pouvoir injecter Carbon Black à travers les VM Tools. On va pouvoir l'injecter dans toutes les VM. Donc, on va être capable de protéger toutes les VM qui sont sur notre vSphere. Et on va également avoir dans cette même console la possibilité de protéger tous les containers Kubernetes qui tournent bah, encore une fois soit sur vSphere mais également sur du bare metal ou dans des public cloud. On va être capable de les visualiser, d'installer en fait un opérateur, un daemon set qu'on va installer une fois sur un cluster qui va se répandre sur tous les nœuds du cluster pour protéger, pour vérifier la compliance de tous les containers Kubernetes, pour appliquer des règles de sécurité qui seront, voilà, j'ai pas le droit d'exécuter du code sur ce container, j'ai pas le droit d'exécuter un container en mode avec trop de permissions, des choses comme ça. Donc voilà, donc Carbon Black, hein, la big picture, c'est quoi? C'est on protège les endpoints, les workloads, les containers. Tout ça en corrélation avec NSX, il y a de plus en plus d'intégration avec NSX. Par exemple, pour tout ce qui est workload, on va pouvoir dire créer des règles dans NSX qui vont dire voilà, je veux bloquer si jamais il y a Carbon Black qui me dit que ce workload, je dois le mettre en quarantaine. Ben ça, on va pouvoir le détecter, détecter des choses malicieuses dans Carbon Black, dire à NSX d'aller le bloquer ensuite. Des choses. Voilà, c'est ce qu'on commence vraiment à faire, c'est de l'orchestration automatique des workloads. Pour les containers, ça arrive pas encore, mais c'est pour très prochainement, les containers, c'est chez Carbon Black, ça a un an maintenant, ça a commencé fin de l'année 2020, mais ça va vraiment très très vite, hein, puisqu'on a la dernière fonctionnalité qu'on a rajoutée, c'était fin de l'année dernière, la visibilité réseau, donc les network maps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on avait l'EDR sur les endpoints, on a maintenant une fonctionnalité de runtime, c'est-à-dire une fonctionnalité en temps réel d'écoute de tout ce qui se passe sur le réseau des containers Kubernetes. Et donc, on est capable de fabriquer en temps réel un graphe des connexions réseau qui s'établissent entre les différents nœuds d'un cluster, entre les différents nœuds cluster, ou vers des adresses IP publiques externes ou publiques internes. Et grâce à ça, on est capable de dire, voilà, il y a tel cluster qui communique avec tel autre cluster, c'est bien sécurisé, la connexion est bien chiffrée, ou alors on va pouvoir détecter une anomalie qui sera bah, ce pod. Un pod ou un container, hein, c'est une fonctionnalité normalement qui est très très précise. Donc c'est très facile d'apprendre ce que fait un pod en général. En général, ce pod, bah, il prend une donnée à gauche et puis il la retransmet à droite. Donc très rapidement, on va pouvoir apprendre ça. Et dès qu'il y aura quelque chose qui va, une anomalie, quelque chose qui va être détecté, on va pouvoir créer des alertes dans Carbon Black.
Ok, c'est assez clair, mais donc si moi je veux commencer avec Carbon Black,
Ouais.
donc je dois installer les différents composants, donc le daemon set de mon cluster Kubernetes
C'est ça.
et les plugins au niveau, enfin ce qui est associé au niveau VMware dans les VM, donc dans les VM Tools. Après, comment ça se passe? Je dois créer mes propres profils de ce que je veux, ou j'ai des profils par défaut qui vont m'aider à démarrer. C'est quoi mes premières étapes?
Alors, bien entendu, la première étape, hein, c'est de se mettre en mode écoute, en mode détection. On ne va pas arriver en production et tout bloquer directement, tout ce qu'on trouve anormal. Donc, on commence d'abord par la détection. On va détecter, on va lever des alertes. Et ensuite, on va travailler à limiter ce nombre d'alertes. Donc, limiter ce nombre d'alertes, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit créer des exceptions dans Carbon Black. Donc, ce qu'on ne pouvait pas faire, hein, nativement avec Kubernetes, avec les profils de protection, c'était très compliqué de faire des exceptions. Dans Carbon Black, c'est en un clic, on voit, OK, bah ça c'est un pod de système, donc celui-là, on va lui donner plus de privilèges. Donc voilà, donc l'idée c'est, on détecte, on observe tout ce qui se passe, et ensuite, bah, on va progressivement augmenter le niveau de sécurité. On va dire, bon, bah, ce cluster-là, maintenant, on sait qu'on peut le passer en mode, normalement, il n'y a pas de pod en mode privilège, donc on va pouvoir le passer. Normalement, on ne s'exécute pas de code dessus. Il n'y a que des load balancers, il n'y a pas d'accès direct aux nodes, donc on va pouvoir couper les connexions réseau. Donc, au fur et à mesure, on va étoffer notre politique de sécurité et on va améliorer notre profil de sécurité. Donc, effectivement, comme tu le disais, hein, c'est pas, on n'est pas complètement lancé dans l'inconnu en ne sachant pas ce qu'il faut mettre. Donc, on a différents profils de sécurité qu'on va pouvoir appliquer au fur et à mesure, qui vont aller jusqu'au CIS benchmark, qui est notre niveau le plus élevé de sécurité, où là, il y a vraiment tout qui est en mode détection ou en mode blocage et qui va demander beaucoup plus d'efforts. En fait, c'est toujours pareil, hein. Plus on met de sécurité, plus il faut configurer notre software pour qu'il tourne de façon le moins privilégiée possible, le plus sécuritaire possible.
Côté NSX, c'est pareil, c'est la même chose, right? So, tu ne vas pas bloquer, déployer NSX T ou NSX V et bloquer tous les trafics. Il faut qu'on arrive à un truc dans le passé, right? Toujours aujourd'hui, NSX supporte les deux modes, donc je ne sais pas comment translate en français, c'est le white mode et le black mode, right? Le white mode, that mean, c'est-à-dire on bloque pas le trafic qu'on connaît. Le black mode, on bloque tout et on ouvre que les ports qu'on connaît. C'est le troisième mode qui est dans NSX Intelligence, c'est qui est le machine learning, all of the AI machine learning qu'on intègre dans NSX Intelligence, qui permettra au client qui tourne NSX Intelligence, qui va détecter, c'est quel est le flow, quel flux qui va être bloqué, quel est le flux qui va être détecté. Par exemple, tu as web traffic qui parle avec app traffic qui parle avec la base de données. Ça, c'est le truc qu'on peut détecter sur NSX Intelligence. On ne va pas bloquer ce genre de truc. On sait sûr que c'est bien le truc qui doit pas bloquer. Ça, il peut faire sur la machine learning capacité. Et sur NSX Intelligence. C'est très, très, très smart.
Donc, pour résumer, on part avec des profils par défaut. Mais déjà, dans ce profil par défaut, il y a certaines règles qu'on peut mettre qui sont manuelles. Typiquement, ce que tu as mentionné, Stéphane, il y a certaines règles comme je ne veux pas qu'un process s'exécute en route dans mon container
Ouais, alors,
des choses comme ça.
Il y a des choses assez basiques, hein. Ce qu'on voit, hein, pour la sécurité des workloads en général, que ce soit des VM ou des containers, la priorité, en fait, c'est d'éliminer les vulnérabilités sur les machines. Éliminer les vulnérabilités, comment ça se passe? En fait, il faut scanner les vulnérabilités. Donc, on peut scanner les vulnérabilités avec Carbon Black, hein, sur les VM, également sur les containers. Et ça va nous ramener quoi? Ça va nous lister, en fait, tous les workloads qui ont des vulnérabilités, tous les packages qui sont vulnérables sur l'ensemble de notre parc informatique. On va pouvoir donner des scorings un petit peu de toutes les machines virtuelles, quelles sont les plus dangereuses, celles qui sont les plus à risque surtout. Donc on va voir, par exemple, il y a un Log4j qui est arrivé fin de l'année dernière. Donc là, vulnérabilité maximum, CVSS numéro 10, etc. Donc là, automatiquement, on va pouvoir détecter, voilà, attention, sur mes 500 clusters que j'ai dans ma société, il y en a 23 qui sont affectés par Log4j, parce que Log4j est en version qui était vulnérable. Automatiquement, on va pouvoir les pointer du doigt et dire, voilà, celle-là, on va devoir les mettre à jour en priorité. On va pouvoir choisir si le service est vraiment trop critique. On va pouvoir également choisir de dire, à partir de maintenant, je ne veux plus qu'on puisse déployer de containers si jamais il contient des vulnérabilités critiques. Si la sécurité est plus importante que vraiment le fait de faire tourner la VM ou le container, c'est un choix ensuite qui va être de dire je privilégie la sécurité à la fonctionnalité.
C'est quelque chose qui est... Alors pour moi, c'est... Alors il y a deux choses. Déjà, est-ce que c'est scanné? Ça veut dire qu'il y a un scanning des...
Alors,
le workload au niveau runtime et pas seulement au niveau image?
Alors, pour ce qui est des workloads, on commence par des VM, hein, une VM Windows Server, Linux, etc. C'est un scanning qui est en continu, j'ai envie de dire. C'est pas on appuie sur un bouton, ça scanne, ça prend tout le CPU et la machine elle s'effondre. Non, c'est un scanning qui est en continu. Donc, lorsqu'on le met en place, il faut attendre jusqu'à 24 heures pour avoir un scan complet de toutes ces VM. Et à partir de là, bah, c'est en continu, on va scanner toutes les machines pour voir celles qui sont vulnérables, parce que y a de nouvelles vulnérabilités qui tombent toutes les minutes, hein. Je ne sais pas combien il y a de CVE par an, des dizaines de milliers. Donc on scanne en continu toutes les machines et on regarde, et donc en continu, on peut très bien regarder notre console et puis 5 minutes après, il y aura une nouvelle vulnérabilité qui va être apparue. C'est vraiment du continu. Donc ça, c'est pour tout ce qui est machine virtuelle. Pour tout ce qui est container, Aujourd'hui, le scan, il est fait de façon manuelle ou de façon programmée dans un outil de CI/CD, par exemple dans un Jenkins ou autre. C'est-à-dire que c'est plutôt le développeur, hein, avant de mettre en production l'application qu'il a déployée ou avant de pousser son pod, son container dans le registry, il va d'abord le scanner et dire, OK, est-ce que celui-là, il y a vraiment beaucoup de risques ou pas? On le scanne, OK, c'est bon, on le pousse dans le container registry. Et l'opérateur, lui, avant de mettre en production justement son container, il va pouvoir le rescanner une deuxième fois pour dire, voilà, ça c'est mon développeur, il m'a développé ça l'année dernière, début décembre, mais depuis, il y a eu Log4j, donc est-ce que par hasard, je ne serais pas vulnérable à Log4j? Donc là, on va pouvoir scanner encore. Donc aujourd'hui, c'est assez manuel, j'ai envie de dire, soit manuel, soit programmé automatiquement, soit contrôlé par un automatisme de type CI/CD. Dans le futur très proche, parce qu'on a déjà des clients qui en bénéficient, on va également avoir un scan en continu. Donc de la même façon que sur les workloads, on scannait en continu toutes les machines, là, ça va être la même chose. Un container, c'est vraiment très simple à scanner. Un container, c'est quoi? C'est un empilement de couches logicielles qui sont des produits, des librairies qui sont publiques. Donc, il suffit d'extraire, en fait, on appelle ça la bill of material, software bill of material, la liste de toutes les applications, la liste de tous les packages. Donc, ça peut être des packages de type distribution Linux, hein, mais ça peut être également des packages de type Python, de Java, etc. Donc, on extrait toute cette liste de packages ou de librairies avec leur numéro de version. Et en fonction de ça, on va être capable de dire, eh ben, tel pod, tel container contient la librairie Java numéro tant, qui est telle version, qui est vulnérable niveau 7.1, niveau 3, etc. Donc c'est soit critique, soit mineur, soit majeur. Enfin, c'est comme ça qu'on va définir le niveau de criticité de toutes les machines.
L'outil de scanner de VMware, parce que j'ai eu l'habitude de travailler aussi avec Arbor, dans lequel on peut faire le scanning d'images, bien évidemment. Ce n'était pas un outil VMware qui était utilisé, c'était souvent une
C'était
tierce
Trivi,
partie,
Trivi
Trivi, oui.
encore, ouais, tout à fait. Ouais.
C'est ça.
Alors, c'est ce qu'on utilisait également au début, mais maintenant on a notre propre outil de scanning et il va être intégré également dans Arbor. On a déjà fait des démos, donc ça fonctionne déjà, c'est encore pas donné au public, mais ça va l'être très prochainement, ouais.
D'accord, donc je peux mettre au niveau de mon CI, donc au moment de pousser l'image dans ma registry, faire un scan. Dans la registry, faire un autre scan en continu.
Tout à fait, ouais.
Et au moment du déploiement aussi, avoir ce scanner qui va dire si j'ai
Tout
des
à fait, tout
vulnérabilités.
à fait. L'idée, c'est pas encore sorti, hein, donc c'est sous entre guillemets, j'ai envie de dire, hein, c'est sous roadmap, hein. Mais c'est effectivement le plan, c'est de scanner en continu tous les containers qui tournent sur des clusters Kubernetes, que ce soit des containers qui viennent de ton container registry, mais qui peuvent venir également d'autres registries si on en a importé. Donc vraiment de scanner tous les containers qui tournent de partout sur tous les clusters.
Donc maintenant, si je reviens un peu à ce process de protection de mes workloads, je vais faire un déploiement d'une application qui va avoir, mettons qu'on ait trois composants, qui soient une DB, un back-end et puis un front-end. Donc il va falloir que l'outil commence à apprendre quel composant discute avec lequel. Au bout d'un moment, on verra bien que c'est le back-end qui va discuter avec ma DB et jamais le front-end. Et donc on va pouvoir quoi? Cocher une case pour dire le modèle qui est sorti du machine learning, c'est le bon, ou c'est juste un outil pour m'alerter si jamais le comportement de ces composants va dévier par rapport à ce que le modèle a appris?
Oui, alors aujourd'hui, encore une fois, c'est de la roadmap. Aujourd'hui, on fait uniquement de la visualisation. L'idée, c'est d'aller ensuite plus loin, de faire de la détection, donc vraiment de créer des alertes. Et ensuite, bien entendu, ce sera de bloquer, quoi. Et après, c'est encore trop tôt pour le dire, hein. Je ne sais pas si c'est Carbon Black qui va le faire, si c'est NSX qui va le faire. On verra, on se reverra l'année prochaine, puis on pourra en rediscuter si tu
Oui, bien sûr.
veux.
Et donc, une fois qu'on a cette visualisation, ce qui est déjà énorme, parce qu'au moins on peut comprendre ces workloads, j'ai pris un exemple très simple, mais généralement,
Ouais.
il y a beaucoup plus de composants que cela. Est-ce que, il y a un moyen, même si ce n'est pas automatique à ce jour, d'en tirer un profil et de renforcer les règles que ce schéma nous montre?
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles réseau dans Carbon Black. Hein, c'est le schéma réseau, il va être, voilà, il y a l'autre balancer sur la gauche par lequel arrive le flux d'Internet qui va aller sur le front-end. Ensuite, on va avoir une flèche qui va aller du front-end jusqu'au back-end. On va voir en fonction de la couleur si c'est chiffré ou non. Et ensuite, on va avoir du back-end jusqu'à la base de données. Et là, on va voir toutes les connexions réseau en interne de tous les pods. Donc, c'est uniquement de la visualisation Network Maps. Donc, ça permet de valider le modèle réseau du développeur. Hein. Le développeur, il l'avait prévu à l'avance. Enfin, j'espère qu'il avait prévu l'architecture de son application en disant ça va passer par là, etc. Et donc, ça va permettre également de valider les règles qu'on a pu créer dans NSX pour dire, voilà, c'est tel container qui a le droit de discuter avec tel container. Mais ça va permettre de voir s'il y a quelque chose qui sort ou est-ce que peut-être... Donc, ça va aider à créer des règles de firewalling ou de valider que les règles de firewalling elles sont bien respectées, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'anomalie. En fait, c'est vraiment le but, c'est l'anomalie détection. C'est détecter quelque chose qui est anormal. Dans Kubernetes, ça peut faire tellement de choses, il y a tellement de pods, il y a tellement de clusters que très rapidement, on peut avoir des flux réseaux qui sont anormaux. Et là, ça permet de les détecter immédiatement, de mettre le doigt dessus et de pouvoir réagir. Quoi. C'est vraiment c'est le but premier de l'outil.
C'est le plus point fort de NSX en général, c'est de faire de micro-segmentation. Je vais déjà en parler, ça. C'est de traditionnel TM et on s'appelle segmentation. C'est pas network segmentation, c'est de micro-segmentation. Ce qui permet d'isoler ton tenant. C'est dans Kubernetes, tu as un cluster qui a plusieurs tenants, right? So dans chaque cluster, tu déploies, il y a pas mal de namespace. So chaque application qui peut partir de une ou plusieurs namespace. So chaque namespace fait partie de NSX micro-segmentation. So on crée un segment. Un segment, ça permet d'isoler ça. So quelque soit l'attaque, arrive ou échappe from Carbon Black, on ne peut pas détecter. C'est un essai qui fait bloquer, c'est faire le blocage, qui permet ou ne permet pas. Et on fait de l'inspection avec IDS, IPS, on fait pas mal de trucs. Si on peut faire ça à côté container, sur microservices, t'envoies sur Tanzu Service Mesh, ce qui fait beaucoup plus d'inspection avec les API Gateway, ce genre de trucs. On permet à any malicious, quelqu'un qui va voler la carte de crédit, qui va enregistrer sur le système, on va détecter. Si on fait un post, un guest API, on va détecter ça. C'est le rôle de Tanzu Service Mesh qui fait ça. Qui est très détaillé.
Ok. Cette micro-segmentation, ça se rapproche des network policy qu'on avait avant dans Kubernetes?
Oui, c'est déjà un NSX V. Avant, maintenant, c'est un NSX T qui portait de faire la micro-segmentation entre le VM et container et bare metal. Et quel que soit ton workload qui est tourné en PEM ou qui est tourné en Azure, en AWS, on fait le single pane of glass, c'est ça, consistent the policy across multiple clouds, c'est ça?
Ok, ouais. Et donc, il y a au niveau système et au niveau du réseau, on peut avoir de la détection. Comment est-ce que je vais avoir un reporting des anomalies qui sont détectées? Donc aussi bien au niveau du réseau, donc le front-end va bypasser mon back-end et essayer d'attaquer la DB, ou alors j'ai un syscall au niveau de ma VM qui n'est pas normal. Où est-ce que moi je vais pouvoir avoir toutes ces informations?
So, côté, je parlais côté NSX. NSX, c'est un outil de contrôler. Il y a deux couches, control plane et data plane. On contrôle tout ce qui passe, mais on ne fait pas le reporting. So, le client, il y a deux choses qui fait l'outil qui fait partie de la maison, c'est VMware qui a un outil VMware Realize Log Insight, so, qui est le syslog qui détecte tous les logs. Et dans ce syslog, tu envoies tous les événements de NSX. Si tu as détecté quelque chose, tu envoies sur le syslog. Le syslog qui fait envoyer vers le Log Insight, qui est VMware Log Insight. Qui fait partie de l'analyse. Et dedans, tu as machine learning, tout ce genre de capacité qui fait partie de reporting. Si on a le web shim, on a des email server qui fait partie du système, qui l'envoie. Et d'autres clients qui sont un peu plus sophistiqués, ils envoient vers le SIM qui est Splunk, qui on a NSX blocking qui fait partie Carbon Black, je pense, et je crois. Vous avez aussi un blocking sur le Splunk et soit.
Ouais, tout à fait. Ouais. Sur Carbon Black, c'est un petit peu différent. Hein. C'est surtout lorsqu'on traite des workloads. Des workloads, lorsqu'il y en a beaucoup, il peut y avoir par exemple 1000 serveurs Windows, et on va détecter quelque chose seulement sur 10 serveurs ou sur un gros paquet de serveurs. Donc pour nous, on a vraiment un menu qui est enfin vraiment une fonctionnalité de triage d'alerte qui est disponible directement dans la console Carbon Black. Et ce triage d'alerte, il va permettre de prioriser les alertes par sévérité. Donc voir ce qui est le plus critique, où là il y a vraiment déjà des choses à faire, mais également de grouper ces alertes. C'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est-à-dire de dire, j'ai vu cette alerte, j'ai vu que PowerShell allait sur un site web malicieux sur 34 machines. On va pouvoir cliquer dessus automatiquement, on va pouvoir dire, voilà, bah, c'est ces 34 machines qui ont été attaquées. On va pouvoir maintenant faire de la remédiation. On va pouvoir également dire, bah, cette alerte était un faux positif, c'était une fausse alerte. On va pouvoir dire, OK, cette alerte, je veux la supprimer. Je veux également pouvoir mettre des notes ou des tags sur les alertes. Les alertes, c'est, si tu veux, c'est un peu la base du travail des threat hunters, des SOC, en fait, des personnes qui gèrent la sécurité des entreprises. Donc, les SOC, ça tourne 24 sur 24. Hein, c'est des gens qui tournent, qui font les 3-8. Donc, les personnes, ils voient une nouvelle alerte, ils commencent à travailler dessus. Ils mettent des notes dessus, ils mettent des tags, ils mettent voilà, ça c'est une alerte, bon, on s'est fait attaquer par un log4j, on va mettre le tag log4j, une autre personne qui va travailler, qui va ajouter le tag. Et comme ça, on va pouvoir avoir des alertes qu'on va pouvoir corréler ensemble, non seulement par Carbon Black, parce que Carbon Black aura dit c'est PowerShell qui a fait telle chose ou c'est Java qui a fait telle chose, mais également parce que les analystes qui font la sécurité du système vont pouvoir agréger toutes les alertes ensemble, les packager, pouvoir dire il faut travailler là-dessus, c'est comme ça qu'on va pouvoir remédier, voilà les actions préventives qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça n'arrive plus. Quoi.
So, une nouvelle chose qui est NSX qui vient de sortir sur la fiche, la nouveauté qu'on vient d'annoncer, c'est les NDR. Qu'on a un nouveau concept, ça s'appelle la campagne. La campagne d'attaques qui permettrait de grouper toutes les attaques en une chose. Si tu as par exemple un log4j, Stéphane vient de mentionner, qui arrive tous les 5 minutes, on groupe tout ça dans une campagne et vous avez une visible capacité de visualiser. Et tout l'ensemble de campagne. On sait de time series, on peut trier par type d'attaques, is it the initial attack, so command and control, or exfiltration. On peut trier par type d'attaque, et ça qu'on peut envoyer un report. Plus facile, de manière plus visible. Non seulement envoyer un report, avec du sens, right? C'est quelque chose qui est sémantique, tout le monde peut comprendre.
Alors, j'imagine que c'est bien aussi bien pour. On groupe le scope de toute une attaque, comme ça on sait exactement ce qu'elle est, mais également ça va sans doute réduire l'alerte fatigue aussi des SOC, parce que comme ce sera groupé, on aura un lot d'alertes plutôt que d'avoir séparément plusieurs alertes.
Alors, ça, c'est déjà le machine learning qui fait partie. C'est le false positive.
Ça va réduire effectivement la fatigue des analystes SOC, mais également, ça va leur permettre d'analyser beaucoup plus rapidement. L'EDR, hein, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va créer des process tree. Un process tree, c'est un arbre de process en français, hein, qui va être, j'ai excel.exe, qui a lancé PowerShell.exe, qui a lancé Ransomware.exe. Et on va vraiment fabriquer de façon graphique un arbre des process. On va voir que tous les enchaînements en fait, de tous les process, jusqu'à ce process a modifié tel fichier, ce process a modifié telle clé de registre, on va pouvoir regarder comme ça, revenir en arrière dans le temps pour dire, effectivement, j'ai vu Ransomware.exe, mais... L'idée, c'est de retrouver la root cause. C'est ça qui est le plus important en sécurité, retrouver la root cause pour savoir ce ransomware, d'où est-ce qu'il vient. Est-ce qu'il venait d'un mail malicieux qui a été reçu par une personne? Est-ce qu'il venait d'Internet? Du coup, est-ce qu'il faut couper une URL? Est-ce qu'il faut couper une adresse IP? Est-ce qu'il faut aller sur un poste en particulier qui est un centre de command and control qui sert à diffuser justement le ransomware? Et l'EDR, c'est cette visualisation qui va apporter, qui va permettre d'analyser le trafic, non seulement en réseau, mais également le trafic, j'ai envie de dire, entre les process. Hein, quel est le process qui a appelé tel autre process? Et dans Carbon Black, il y a un antivirus qui est intégré. Et l'antivirus Carbon Black, il peut aller très très loin, il peut créer des règles qui vont pouvoir dire, voilà, toutes les applications qui sont dans le répertoire Office, donc Word, Excel, PowerPoint, etc., n'ont pas le droit d'appeler d'interpréteur de commande, donc n'ont pas le droit de lancer command.exe, n'ont pas le droit de lancer PowerShell.exe, etc. Et donc, en un seul clic, on va pouvoir dire, voilà, je veux maintenant mettre en place cette politique de sécurité, ça va s'étendre à toutes les VM Windows du parc, hein, que ce soit des endpoints, que ce soit des workloads, ça va s'étendre partout. Et l'avantage d'un EDR, c'est que on enregistre tout ce qui s'est passé dans le passé. C'est vraiment du big data, on enregistre tout ce qui s'est passé. Et donc, on a un historique de 30 jours sur tous les événements, tous les process qui ont tourné sur chacun des postes. Et donc, on sera capable de dire, avant de mettre en place une nouvelle politique de sécurité, on sera capable de la tester pour voir si on va bloquer quelque chose. Donc, tout à l'heure, je citais l'exemple de, on va interdire à toutes les applications Office de lancer PowerShell. En cliquant juste sur un bouton, test rule, on va pouvoir voir, est-ce que ça s'est produit dans les 30 derniers jours? Ça s'est produit, effectivement, c'est lorsqu'on s'est fait attaquer. Bon, à partir de maintenant, je mets en place cette politique de sécurité, on va pouvoir le bloquer. Donc ça, c'est quelque chose c'est un petit peu manuel, j'ai envie de dire. C'est en plus du machine learning qu'on va faire, mais c'est quelque chose qui permet de réagir sur des investigations qu'on a fait dans le passé. On va pouvoir améliorer notre politique de sécurité sans avoir de risque de blocage parce qu'on peut tester sur toutes les informations qu'on a loguées auparavant. Quoi.
Une chose, il y a très fort côté VMware et d'autres qui n'ont pas, c'est qu'on a deux choses. Right? D'abord, c'est le data plan qui est complètement distribué dans tous les hosts parce qu'on a inventé vSphere. Donc, quelque chose, tu es en vSphere, qu'on a architecture distribué. Et côté management, on a un seul point de contrôle qui est le control plane. Quel que soit multi-site ou single-site, on a complètement distribué. Et c'est très facilement qu'on peut détecter et push de automation. Et ce genre de truc automated, complètement marché very, très, très, très fort côté VMware que d'autres qui n'ont pas ça, cette solution. Qui ne fait pas de happening, on ne fait pas ça, on fait complètement distribué architecture. Quel que soit micro-segmentation, quel que soit IDPS, quel que soit EDR, NDR, tout ça c'est complètement distribué.
Ok, c'est clair, mais donc au niveau de VMware Carbon Black Cloud, tout se fait au niveau de la console.
Tout à fait, ouais. C'est ça. Ouais.
Donc toute l'investigation.
On peut également exporter dans un SIEM, un Splunk, un QRadar ou autre chose. Hein. C'est suivant vraiment la topologie du client, suivant sa façon de travailler, suivant la taille de son équipe, s'il a un SOC, s'il a un SOC externalisé ou non, s'il y a des très grandes sociétés qui ont Carbon Black, hein, qui ont plus de 100 000 endpoints qui sont connectés sur une console Carbon Black. Quand il y a plus de 100 000 endpoints, forcément, ça fait pas mal d'alertes, donc ça fait des grosses équipes. Donc, c'est des équipes qui ne font que la sécurité du endpoint et pas la sécurité réseau. Dans des structures plus petites, on peut faire également les deux. Donc là, c'est peut-être plus intelligent de faire ça sur un SIEM. Ça dépend vraiment de nos clients, de la topologie des clients. Ouais.
Une autre question aussi là-dessus, puisqu'on parle de machine learning. Alors, le machine learning, autant c'est très automatisé et très pratique, mais c'est un peu coûteux en ressources. Ça prend un peu de temps aussi au niveau de l'apprentissage. Est-ce que les modèles de machine learning sont limités, en tout cas, au data center, je ne vais pas dire l'infrastructure du client, ou est-ce qu'il y a des modèles que VMware propose aussi publiquement, parce qu'il y a certaines attaques, autant elles peuvent être très ciblées juste pour une personne, autant il peut y avoir une campagne de ransomware. Et le client A et le client B vont subir la même. Et donc, ce qui aurait pu être détecté peut-être plus rapidement chez le client A pourrait profiter au client B. Est-ce que ça se fait ou pas du tout?
Alors, en fait, on a des équipes hein, de recherche informatique, hein, des équipes TAOTIN, Threat Analysis Unit, qui mettent à jour en temps réel les indicateurs de compromission, qui mettent à jour en temps réel les, les bases d'attaque, hein. Donc, dès qu'il y a eu les attaques SolarWinds, les attaques Log4j, etc., enfin les vulnérabilités Log4j, pardon, immédiatement, on a mis en place des solutions pour que nos clients soient au moins alertés. Attention, il y a tel gros ransomware, telle nouvelle base de ransomware qui est en train de se répandre partout sur la planète. Donc déjà, on les prévient, on fait des articles, on a une base communautaire qui est très très forte, enfin un site web communautaire, pardon, très 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 lu par nos clients, mais on a également immédiatement modifié nos indicateurs de compromission pour générer des alertes, mais également on génère des nouvelles règles de blocage, hein, bloquées par exemple si on a SolarWinds.exe qui exécute telle application qui est malveillante. Automatiquement, si on sait que c'est ce qui est en train de se répandre sur toute la planète, automatiquement, nous, on va créer une nouvelle règle qui va être poussée. Tout est web, donc tout est mis à jour en moins de 10 minutes. C'est sur tous les endpoints de la planète quoi, qui sont protégés par Carbon Black.
Ok, ça c'est chouette.
C'est côté, très chouette. Côté NSX, pour répondre à ta question, Stéphane, on est en contre de la machine learning, c'est très 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 loin côté ressources. Avec la lancée de 3.2, complètement on séparé entre la couche core de NSX, le core qui fait le routeur, sécurité, et le reste, machine learning, qui fait tourner sur Kubernetes. On a containerise tout ce genre de trucs en dehors du core de NSX qui tourne sur VM. Le reste est tourné sur NSX. Ça permettra de complètement étendre et scale très, très facilement. Ça, c'est déjà fait partie de la nouvelle architecture de NSX maintenant. C'est de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur Kubernetes. On déploie très facilement et complètement tourner en on-prem ou dans le cloud. Ça, c'est déjà fait partie. Ça va permettre de détendre. Sorry. Sinon, c'est des ressources très, 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 très lourdes pour consommer toute la machine learning capacité.
OK. Alors, dans tout ce qui est aujourd'hui détection de comportements anormaux sur les machines ou sur le réseau, on utilise souvent eBPF. Est-ce que c'est aussi la technologie qui est sous Carbon Black?
Alors, Carbon Black utilise effectivement eBPF pour la sécurité de tous les OS Linux de base. Hein, donc, c'est depuis, ça fait plus d'un an, j'ai plus la date exacte, mais effectivement, d'utiliser eBPF, ça nous permet de fonctionner pour tous les noyaux Linux. Avant, on utilisait un driver Linux qu'il fallait qu'il soit exactement de la même version que celui utilisé par nos clients. Donc, ça nous faisait supporter je ne sais combien de niveaux de Linux kernel. À chaque nouvelle version, il fallait retester sur toutes les versions de kernel. C'était assez difficile. Et ça, surtout, ça empêchait nos clients d'utiliser des drivers, des kernels Linux propriétaires. On a des clients qui optimisent leur kernel Linux. Donc, on n'avait pas les mêmes kernels, on n'était pas au même niveau de fonctionnalité qu'eux, donc là, c'était difficile à les protéger. Donc, depuis qu'on utilise eBPF, effectivement, il n'y a plus de code source, vraiment, on n'a plus de driver Linux, on va s'insérer à travers eBPF, c'est à ça que sert eBPF. Donc, ça nous permet d'avoir des fonctionnalités de protection du driver, du kernel Linux, qui soit tout le temps, qui fonctionne tout le temps, quelle que soit la version de Linux, quelle que soit la distribution Linux. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va supporter tout ce qui est Red Hat, CentOS, mais qu'on supporte également Ubuntu, Debian, Amazon Linux, SUSE Linux, etc. Donc, on arrive à distribuer tout un tas de distributions Linux grâce au support de eBPF. Donc, ça, c'est pour le Linux en lui-même. Et pour tout ce qui est Kubernetes, on supporte également toute la partie eBPF pour tout ce qui est réseau aujourd'hui, donc tout ce qui est découverte du réseau, création graphique de la topologie réseau, tout ça on utilise eBPF également pour sonder le réseau, pour éviter de regarder chaque trame une par une, hein, ça prendrait 100% du CPU, là on va plutôt regarder en gros avec eBPF tout ce qui se passe. Donc eBPF c'est vraiment quelque chose qui nous sauve la vie, mais qui est très utilisé par Carbon Black, en tout cas, à la fois sur Linux et sur les containers.
Et côté Windows, puisque c'est en train d'arriver, il y a un travail en cours.
Alors, côté Windows, je n'ai pas entendu parler d'IPPF encore, mais j'avoue que maintenant que je suis sur la partie container, je suis de moins en moins la partie sécurisation Windows. Mais j'imagine que si on a la possibilité de le faire, on le fera également. Ouais.
Il y a des containers Windows maintenant aussi.
Alors, ouais, c'est pas encore supporté par Carbon Black, non. C'est pas trop demandé par nos clients encore. Peut-être ça le
Ok.
viendra.
Ouais. Très bien. Pour conclure, une dernière chose, je vais vous demander à l'un et à l'autre de me dire si vous deviez retenir une feature qui vous plaît particulièrement dans le produit aujourd'hui, parce qu'il y en a des tonnes, on ne peut pas faire le tour de toutes, mais quelle est celle qui vous plaît le plus, qui vous inspire le plus?
On est là pour servir le client. C'est quel que soit le client qui demandait, right? C'est bon qui voulait faire de multi-cloud, qui fait sur tourner sur l'application, non seulement une seule cloud, sur on-prem, sur tous les clouds, sur les edge. On voulait faire de bout en bout sécurité. Le client qui est très concerné sur la sécurité, on a ça. On a toutes les solutions qui servent le client. Ça, c'est un essai. C'est ça, Carbon Black. C'est ça, VMware. C'est faire de bout en bout, quel que soit compute, storage. Et réseau. Là, c'est ma conclusion.
D'accord. Mais si tu dois retenir une feature, parce que VMware fait quand même depuis longtemps, évidemment, essaye de tout mettre ensemble et de proposer un data center entier à ses clients. Mais aujourd'hui, dans les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, il n'y en a pas une parmi celles-là que tu regardes un peu plus près, qui suscite un peu plus ton intérêt?
Côté NSX, généralement, c'est l'opérationnel simplicité. Comment facilement pour tous les clients peut adopter. Ça, c'est NSX aujourd'hui, qui est plus facile. C'est plus simple, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais on le cache tout ça, les clients ne peuvent pas savoir. Et on met à la place, tout le monde peut adopter plus facilement. Ça.
La simplification opérationnelle qu'il y a derrière NSXT. C'est vrai que
Merci.
comme moi, par exemple, qui suis très mauvais en réseau,
C'est ça, comme vSphere, parce que tout le monde aime bien vSphere, vCenter, on aime, une fois tout le monde aime bien NSX, Carbon Black, de la même manière. C'est ça qu'on voulait faire.
Ok. Donc la simplicité opérationnelle, et Stéphane?
Et pour ouais, côté Carbon Black, ce que je dirais, c'est le plus important, c'est pour moi, c'est la visibilité. Carbon Black apporte la visibilité sur les vulnérabilités et sur le réseau des containers. Et pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Des containers, c'est quelque chose qui est très abstrait. C'est des petits pods qui tournent sur plein de nodes, dans plein de clusters, dans le multicloud. Et grâce à Carbon Black, on a une visualisation de ce qui se passe exactement et on peut détecter des anomalies et des vulnérabilités pour. On sait ce qu'on a. On sait ce qu'il faut protéger, on sait comment le protéger, donc on sait ce qu'il faut faire et on sait le faire avec VMware Carbon Black.
So, une dernière chose qu'on voulait ajouter, c'est toujours beaucoup de trucs qu'on partageait sur le site web. Il y a la simplicité de NSX, VCN, Virtual Log Networking, c'est que trois couches, right? La couche d'application, applicatif qui est au-dessus. Au milieu, c'est la couche virtualisation. Virtualisation, c'est le réseau, virtualisation de storage, virtualisation de tous les computers. C'est au-dessous, c'est la couche physique qui est intacte. Mais on va améliorer beaucoup avec les SmartNIC, avec les switches, tous les trucs de underlay switches, de quel que soit le vendeur. Qu'on est servi de toutes ces trois couches. Et plus facilement, tu sors de leur contexte qui va supporter tout type d'application. C'est le réseau qui est là pour supporter des applications. Ce n'est pas le reverse. Il faut supporter les DevOps, développeurs, supporter tous les gens qui développent l'application. Qui tu connais le plus, que le réseau qui soit quel que soit invisible, mais qu'il est là, quel que soit que les clients qui demandaient, que le DevOps qui demandait, le réseau qui est là, la sécurité qui est là. C'est là, c'est le réseau qui devient plus en plus invisible, mais plus très important.
Ouais. J'avais une dernière question à ajouter aussi pour Stéphane, peut-être, mais toi ne peux répondre aussi bien. Donc aujourd'hui, le machine learning, tu l'as mentionné, il est déjà bien présent, mais c'est encore en pleine évolution. Aujourd'hui, on a des consoles qui permettent de visualiser exactement tout ce qui se passe. Est-ce que dans le futur, il est prévu d'avoir de la remédiation automatique peut-être, ou des process un peu plus automatisés?
Alors, la remédiation automatique, il y en a déjà. Hein, il y en a. On détecte en fait des techniques d'attaque. Je ne sais pas si tu connais le mitre attaque, qui fournit justement des techniques d'attaque. Maintenant, on détecte plus un virus parce qu'il a tel EH. Maintenant, on repère vraiment une technique d'attaque. Donc, on appelle ça des TTP, des techniques, des tactiques et des procédures. Donc, nous, chez Carbon Black, on détecte ces techniques d'attaque. Et c'est en fonction de ça qu'on va être capable de bloquer. On va pouvoir, par exemple, détecter une technique d'attaque qui est un ransomware. Hein. On prend des fichiers, on les chiffre, on les remet sur le disque. Ça, c'est une technique qu'on détecte, donc on va pouvoir bloquer ça. Donc, on n'est plus vraiment dans du machine learning à regarder absolument tous les process qui tournent, parce qu'il y en a des milliards qu'on collecte tous les jours. Mais on va plus dans le détail, dans les techniques d'attaque. Et on va se mapper vraiment aux techniques d'attaque du framework d'attaque du Mitre pour dire, voilà, on va bloquer cette technique d'attaque. C'est plutôt comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui.
Ok.
Il y a pas de magique, ça. Tu vois pas que clients, il y a beaucoup de clients, ils aiment ça, l'amélioration automatique. Mais ils veulent faire le copilote. C'est comme copilote, c'est semi-automatique. De la manière, tu veux voir ça avant de appuyer sur le bouton. C'est ça. Mais on a la fonctionnalité que faire de la simulation. Avant de l'appliquer sur la production, tu vas pas appliquer sans savoir qu'est-ce qui va passer. C'est la simulation qu'on a ça aussi. Avant d'appliquer directement sur le réseau. Ça, c'est très, très fort côté qu'on a ça sur certains produits we have, qu'on a.
Toine, Stéphane, merci beaucoup.
Merci Stéphane.
Merci.
Retrouvez Toine et Stéphane sur LinkedIn et VMware sur vmware.com. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.